Moi, je ne suis pas très fouteux, alors donc j'ai qu'une chose à vous dire, c'est que ça m'a toujours choqué de voir des RMistes applaudir des millionnaires.
Je parle de foot avec des gens qui connaissent le foot.
D'accord.
Voilà.
Moi, je veux surtout pas qu'on tombe dans les travers des masculins, hein, devenir entre guillemets un peu con sur les bords.
Oh là là, caviar. Là.
Il est hors de question que vous preniez l'équipe de France en otage.
Le vice, c'est important en football.
On va pas s'emmerder pendant 6 ans à organiser la Coupe du Monde si on peut pas faire quelques petites magouilles.
On commence tout de suite avec déjà c'est quoi un podcast. Donc moi quand on me demande ce que je fais maintenant aujourd'hui, je réponds que j'ai lancé un podcast. Et je vois bien donc au regard crédule de mes interlocuteurs que le terme n'est pas toujours bien intégré.
Alors qu'est-ce que c'est Anastasia un podcast?
Eh bien je vais te répondre tout de suite Mélanie.
Est-ce que c'est comme de la radio?
Eh bien non, pas exactement. Vous-même qui nous écoutez, vous savez ce que c'est un podcast puisque vous en écoutez un actuellement. Mais le définir, ce n'est pas chose facile.
En 2014, j'étais en vacances avec mon copain de l'époque et je voulais lui montrer un podcast. Du coup, je sors mon portable, j'ouvre l'application de podcast, je clique sur la barre de recherche, mais là, apparaît ma dernière recherche constituée d'un mot de 4 lettres, sexe. Je l'efface immédiatement, mais trop tard. Mon copain me fait une réflexion du genre « Ah ouais, tu cherches ça direct, comme ça ?» Je rougis.
Ouais, je pense qu'il faut toujours avoir en tête qu'il y a un objectif, et l'objectif c'est l'écoute. Il faut vraiment se le dire et se le redire souvent parce qu'on est aussi nous-mêmes empoisonnés par nos préjugés, par nos stéréotypes, etc. Et on peut malgré soi reproduire ça en fait. Et je pense qu'il faut toujours avoir dans la tête, et vraiment moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué là ces derniers jours, de se dire que si moi je parle à cette fille-là et qu'elle a envie de parler, il faut d'abord l'écouter, mais vraiment l'écouter.
On n'est pas là pour blesser les gens ou dire ah, putain t'es vraiment trop nul ou alors... Au pire, ne rien dire en espérant. Ah putain, j'espère qu'il va faire ça, mais bon, s'il le fait pas, du coup, tant pis, mais j'ose pas lui demander. Enfin, tout ça, ça amène que de la frustration, et je trouve que c'est vraiment un endroit où on peut se permettre d'être ouvert et de pas avoir peur, et que de toute façon, je veux dire, on sait pourquoi on est là, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour 36 000 raisons, et le seul moyen d'arriver à ce qu'on veut, c'est genre d'en parler et de montrer à l'autre, genre, comment. Parce que je dirais que dans les films, que genre un mec et une meuf, ils couchent ensemble pour la première fois, et puis le mec, il sait exactement quoi faire, et la meuf, elle kiffe trop, et la meuf, inversement, enfin, ça arrive jamais, quoi. Chaque meuf est tellement différente et chaque mec est tellement différent, genre ce qui marche sur quelqu'un marchera pas du tout sur la personne d'après et inversement quoi. Et du coup je pense qu'en parler c'est ultra important.
Vous savez quand j'étais jeune et qu'on avouait qu'on avait avorté, moi quand j'étais jeune, pratiquer une IVG c'était la même chose qu'un suicide aujourd'hui. Quand il m'est arrivé d'avorter, j'en ai parlé à tout le monde, j'ai raconté. C'est ça qui choquait les gens, ils disaient mais ça on le fait en cachette, on le dit pas. Mais moi, si, justement, je veux le dire pour que toutes les autres femmes puissent le faire aussi, sans avoir honte. Toutes les salopes qui ont signé ce manifeste, c'était des femmes qui avaient avorté et qui l'ont avoué, pour que les pauvres aussi, pour que les femmes qui n'ont pas accès, justement, à la parole, comme nous on l'a, puissent aussi avoir accès à la même chose.
Moi, je sais qu'on peut lire des conneries, pardon, je le dis comme ça, mais sur n'importe quel site officiel, gouvernementaux, des médias, il n'y a pas de problème, des erreurs, il y en a partout. Mais on peut aussi lire des choses intéressantes sur des sites qui, au départ, sont absolument malveillants parce que ce propos-là, cette formulation, même de quelqu'un avec qui je suis d'accord en rien, qui est mal intentionné, etc., ça peut être intéressant à considérer comme un point de vue que je regarde et je me dis, ah ouais, c'est intéressant quand même que cette personne pense comme ça parce que du coup, moi, ça me fait penser comme ça. Et en fait, il faut qu'on sorte de la vision, il y a les bons et il y a les mauvais. C'est bien plus compliqué que ça.
Nous, si on passe à côté de notre compétition, et ben, bim, on sait qu'on va avoir la sanction.
Non, mais c'est
un journaliste, s'il fait un article tout pourri, il y a peu de chances qu'on va lui taper dessus, quoi. Et donc voilà, c'est un peu ce décalage où, à un moment donné, non, le monopole, il est pas que d'un côté et donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de travailler avec des médias parce que il y a pas que eux qui peuvent nous apprendre des choses, il y a aussi nous à leur apprendre un petit peu la vision qu'on a, la perception et de pouvoir comprendre à chacun comment ça peut bien se passer quoi.
Oui, je retiens la raison.
Mais le fait que tu sois là à la maison fait que déjà t'es pas sur la blacklist.
C'est intéressant parce que c'est quelque chose aussi dont nous on doit avoir conscience en tant que journaliste, le rapport qu'on a avec vous. Et je pense, et je suis d'accord avec toi, que c'est donnant-donnant.
Elle dit, mon deuxième objectif, c'est de vous inciter à passer un petit peu de temps sur la route. Et elle dit juste après, autrement dit, à voyager avec l'esprit de la route en étant ouvert à tout ce qui se présente au lieu de rechercher le familier. Et en fait, ça donne une résonance aussi au voyage que nous, on a chacun d'entre nous sur les réseaux sociaux, puisqu'on déambule en fait dans les réseaux sociaux, mais où on finalement recherche moins ce qui est étranger, ce qui est extérieur à ce que nous vivons, mais où on recherche plus le familier. Et ce voyage qu'elle raconte aussi, Gloria Steinem, c'est de d'aller à la rencontre de ceux qu'on ne connaît pas, en fait.
Une personne qui me connaît visiblement très bien m'a taguée sur une publication sur Instagram. C'était une vidéo d'une chienne dont je suis particulièrement fan, une petite corgi nommée Maxine, dont le pseudo est Mad Max Fluffy Road. J'ai cliqué sans me faire prier, et voici ce que j'ai entendu.
Stop, on arrête tout. Si tu veux plus de musique électronique.
Ou de très jolies mélodies.
Oui, en gros, de l'Eurodance, quoi.
Ça tombe bien, c'est la pause.
Pause
musicale.
Crois sur ton chemin oublié, réparé des lumières dorées. Sans fin vers l'autre lendemain, sans fin vers l'autre la nuit, la grande d'espoir, de la vie, sentier de gloire,
sentier de gloire,
sentier de gloire, sentier de gloire.
Le doublage, ça n'est pas qu'une traduction des mots. C'est aussi pour moi une adaptation, ouais, culturelle, c'est-à-dire de mettre de façon à ce que la personne qui regarde tout de suite pige la situation et les émotions. Et ça se fait pas que par les mots, ça se fait aussi par les intentions qu'on met. Et c'est, pour moi, c'est hyper important de dire ça, parce que ça répond aussi aux gens qui disent « Ah oui, mais là, pourquoi ça n'a pas été adopté pareil ? Ah oui, mais là, vos voix ne sont pas les mêmes. Quand... » Non, parce que nous, en français, on ne fait pas ça, on ne joue pas comme ça. Mmh. Pour faire passer la même émotion, on va passer par une autre intonation. Hein, voilà. Mmh. Pour arriver au même résultat, eh ben, on passe un peu par un chemin différent.
Je prends des exemples comme Francis Lax, par exemple, ou Lax et Balutin sur Starsky et Hutch, ou sur Magnum. C'était des gens, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Parfois, ils rajoutaient des trucs, des textes, du texte qui était, n'existait pas en anglais. Ça faisait le charme de la série. Et bon, on a perdu un peu ça. On est beaucoup plus soucieux d'être fidèle à l'anglais sur le jeu et sur le texte. Donc, mais parfois, on se retrouve quand même sur Friends, par exemple. C'est un des derniers produits que j'ai fait où on pouvait changer le texte comme on voulait. Parce que ça, et d'ailleurs, c'est bien parce que du coup, c'est vrai qu'à force de doubler le rôle, on connaît le comédien qu'on fait, qu'on double, on se l'approprie davantage et on trouve des trucs qui finalement restent dans la tête des gens. Et ce sont souvent principalement les choses qu'on a changées, en fait, qui n'existaient pas, qui faisaient pas partie du texte.
Je faisais un peu ce que je voulais, je disais pas toujours ce qui était écrit pour mon personnage. Et tu vois, j'ai pu placer les trucs, les délires, metal, trash et tout. C'est moi, en fait, c'est pas écrit, c'est pas l'auteur qui avait écrit ce truc là. C'est moi qui ai commencé à foutre toutes ces conneries là. Et là, c'était un exemple de choses où t'es un peu libre, mais ça allait tellement dans le personnage. J'ai un peu exagéré son rire en anglais qui était pas mal, mais tu vois, c'est là où j'ai commencé. Et du coup, bah, on m'a collé un peu l'étiquette du mec qui avait un peu gogol sympa. Et je pense que c'est pour ça qu'on a pensé à moi pour Joey, parce que Joey, c'est un peu le petit frère.
J'imaginais que c'était Joey qui t'avait permis de faire celui-là, mais
non, Cody, c'est bien avant, je crois. Oh, d'accord, c'est avant, tu vois.
Bah non, on va pas le prendre parce qu'on l'entend trop. On va pas le faire travailler parce qu'il est trop bon. On dit jamais ça d'un musicien, je veux dire. On dit pas, on va pas prendre Yehudi Menuhin parce qu'on l'a trop entendu. Vous voyez,
ou d'un
c'est
acteur.
Même d'ailleurs la raison pour laquelle on le prend, c'est que si on l'entend beaucoup, c'est qu'en principe c'est qu'il a plutôt des qualités. Donc on voilà, ou un acteur français dans un ou, enfin ou étranger, mais enfin ou, à l'image, on va pas dire on prend pas Depardieu parce qu'on l'a trop vu. Non, c'est voilà, c'est. Mais c'est vrai que dans le doublage, on dit bah non, non pas lui, on l'entend trop. Voilà quoi. C'est paradoxal. C'est vrai que c'est une des rares branche de ce métier que je connaisse où on reprend pas les gens parce qu'ils sont bons.
Si vous voulez taper une très bonne barre, que je vous conseille faire,
de qualité,
vous tapez Francis Huster, Albert Einstein, parce qu'il a joué. En fait, il a joué Albert Einstein au théâtre avec une fausse moustache.
Je ris rien que d'imaginer le.
Et comble du pire, il avait fait la promo en Einstein. C'est-à-dire que tu as des photos de Huster à RTL avec les logos RTL déguisé en Einstein dans un maquillage.
C'était un peu son Man on the Moon à lui, quoi. Il avait vraiment.
C'est exactement ça.
Ça veut dire qu'il pourrait possiblement continuer le caméo de Stanley alors du coup.
Là, on pourrait effectivement recoller un peu les wagons. Oh, et en même temps, peut-être.
Peut-être non, finalement.
Et peut-être vaut mieux pas.
Un an plus tard, Jurassic Trash, d'abord titré Terror of Prehistoric Bloody Creature from Space, est son chef-d'œuvre. Un jeune savant maboule, isolé dans le Haut-Vaucluse, élève un dinosaure aquatique. Un camp de jolis nudistes est bientôt décimé. Un chef scout intégriste, y voyant l'esprit du démon, part en croisade avec ses troupes. Un archéologue débarque armé de deux accortes assistantes. Le préfet de région à la promotion du tourisme local se désespère. Un mafieux envisage un dinosaure land et le chaos scénaristique sonne l'alerte rouge. Le vidéaste a compris que la carte parodique est sexy doit être poussé au maximum. Ce n'est plus la trauma qu'il invoque, mais la débilité des meilleures comédies désolantes françaises et l'hystérie libidinale des sexy comédies italiennes. Découvrant que son patronyme est celui du chef scout, Philippe de Villiers intente un procès pour préjudice. Un arrangement est trouvé. Chaque fois que son nom est prononcé, un bip le rend inaudible, ajoutant un peu plus de folie à ce jeu de massacre filmé en HI8.
On peut pas faire mourir un membre du Splendid. Sur scène, ça allait, mais sur scène, voilà. Mais en cinéma, ça passait pas. C'est ce que je dis aussi à un moment, c'est qu'on pouvait pas les faire mourir, ces gens-là. Ils ont sciemment aussi voulu que quand ils ont été mis dans le domaine public qu'est le cinéma, aucun des membres pouvait mourir, quoi. On les voit jamais, voilà. Et donc il fallait tuer quelqu'un d'autre et à la place ça a été le réparateur d'ascenseur, quoi. Mmh. Et donc cette espèce de volonté claire qui fait qu'après, je sais pas pourquoi, encore une fois, c'est devenu une espèce de rituel en France de passer ce film-là au moment des fêtes, comme si vraiment il fallait dire, voilà, ça fait partie pareil d'une espèce d'hygiène française, un truc hygiéniste. Il faut plus croire à rien, quoi. Et ce film-là est vraiment le film de l'apostasie rigolote, quoi. Faut vraiment renoncer à toute sa croyance en tout, quoi. En l'homme, dans les espèces de choses sociales qui peuvent être mises en place, au pouvoir politique évidemment, à la gauche, aux espèces de volonté, enfin de croyances dans des réformes socialistes, enfin voilà, c'est un espèce de film presque nihiliste, quoi, complet, quoi.
L'homme qui s'échine à faire régner l'ordre est le speaker, équivalent de notre président de l'Assemblée. Voici un florilège de ses difficiles combats ces derniers mois.
Mr. Gove.
Monsieur Gove.
Order.
De l'ordre.
William.
Vous êtes vraiment une personne trop excitée. Vous allez me faire 1000 lignes en écrivant « Je me comporterai bien à la séance de questions au gouvernement ».
Prime Minister's questions. Be
quiet. Silence. Silence. Faites du yoga.
Qui sont-ils pour décider de ce qui est art? Qui sont-ils pour se permettre de censurer? Il faut reprendre le pouvoir sur ces institutions, sur ces décideurs qui ne sont pas des artistes mais des politiques, des binoclars, des hommes de pouvoir. Depuis quand le pouvoir fait-il écran à la création, à l'art, à la liberté d'expression?
Putain, y en a marre de ces institutions. Je n'arrête pas de me faire prendre pour un con. J'ai bien compris que le musée pour moi c'est non. Et rien que cette phrase c'est une aberration. Pour l'instant je le prends comme une punition. Un jour vous verrez ça vous coûtera bonbon. Y'a un mot que je connais pas c'est abdication. Je ne compte pas arrêter mes actions.
Nous avons imprimé, l'humanité a imprimé une formidable accélération au temps. Et qu'à chaque fois que nous franchissons une limite, le cliquet malthusien, écologique, se referme sur nous beaucoup plus vite. Avant, c'était une question de millénaire, c'est devenu une question de siècle. Maintenant, ça devient une question de décennie. Nous créons toujours plus de problèmes pour résoudre les problèmes antérieurs et le temps qui nous reste pour trouver des solutions aux problèmes que nos nouvelles solutions ont apportés se réduit de façon drastique. Et c'est pour ça que nous avons un sentiment de panique face au futur, c'est que nous voyons bien quels sont les problèmes, mais nous peinons à deviner les solutions.
Tous les paysans, même céréaliers, sont connectés à leur terre et se rendent bien compte du climat. Et là, ces quelques dernières années, on a des années historiques. C'est-à-dire que chaque année, je suis plus crédible auprès de mes clients. Je leur dis, on n'a jamais vu ça. 2016, on n'a jamais vu ça. 2018, on n'a jamais vu ça. Mon grand-oncle, qui a 94 ans, qui était encore paysan il y a 2 ans de ça, il me dit qu'il n'a jamais vu ça. Donc il n'y a pas à tortiller, il y a quand même une modification. Alors est-ce que c'est un épiphénomène et ces quelques années, j'y crois pas. Je pense qu'il faut qu'on s'habitue à un vrai changement et donc avoir des pratiques le plus durables possible pour pallier à ce changement climatique, faut dire le mot.
On n'a jamais consommé autant de charbon que l'année dernière.
Le pétrole n'a pas remplacé le charbon. Au contraire, les deux se sont additionnés. Les énergies renouvelables, certes, elles sont une partie de plus en plus importante du pack énergétique, mais ça n'empêche pas qu'on consomme toujours plus de pétrole et toujours plus de charbon au fur et à mesure qu'on accroît la part d'énergie renouvelable. Ça se cumule parce qu'on a toujours plus besoin d'énergie. On est accro à tout ça, on le laisse couler en nous parce qu'effectivement on est dans une idéologie quasi religieuse qui est celle du néolibéralisme, du capitalisme, qui est celle de toujours consommer plus pour nourrir le système qui permet de sortir plus de gens de la pauvreté et d'accomplir toujours plus de promesses, mais au détriment de ressources finies.
Au détriment du long terme, peut-être, du coup.
Au détriment du long terme, au détriment de nos descendants et au détriment même du confort de nos vieux jours, parce qu'on ne sait pas quand cet ensemble-là va commencer à craquer.
Là, aujourd'hui, en fait, tes matchs, tu les regardes comme ça, quoi. Tu regardes ce que... Tu sais, le dimanche soir, t'es là, bon, est-ce que je regarde PSG Saint-Etienne, est-ce que je regarde Juve Atalanta, est-ce que je regarde Barça, Villarreal, enfin, tu vois, en fait, il y a trop d'offres, en fait. Il y en a plein qui vont te dire, bah non, c'est mieux, que t'as le choix. Et c'est le monde de l'internet, aujourd'hui, l'information, bah, t'as toute l'information que tu veux à disposition. Mais d'un autre côté, moi, je trouve que ça désacralise les matchs et ça change complètement la vision qu'on a du foot, en fait. Pour moi, ça change complètement la vision qu'on a des joueurs, des matchs, de tout, en fait.
Parce que tout est made in China. Ici c'est made in China. Ça c'est made in China. Votre micro c'est made in China. Hein. Votre cravate, là, votre pantalon, votre slip à 1 euro c'est made in China. Pourquoi il a 1 euro votre slip? C'est pas cher 1 euro un slip, hein? Parce que le mec qui fabrique votre slip à 1 euro, il est en Chine. Il est payé 15 centimes par mois avec un flingue sur la tempe et il a pas le choix. Parce qu'entre nous, s'il avait le choix, il serait avocat au médecin et fabriquerait pas des slips. Hein? Alors si on les boycotte pas, qu'est-ce qu'on fait? On a qu'à les attaquer directement pour leur apprendre la démocratie. On leur met une bonne branlée aux Chinois. Seulement foutre une branlée à 1 milliard de Chinois, ça va être compliqué. On n'arrive même pas à faire libérer une grognasse de franco-colombienne détenue par 3 mecs dans une jungle à la con parce qu'on a plus une thune pour payer la rançon à cause de la crise des subprimes de César Merlec 2002 à qui on lèche les pompes parce qu'on est des trous de balles.
Alors franchement, la liberté de culte d'une bande de zozos en tang et en tong qui danse avec des baguettes dans les montagnes de l'Himalaya, on en a rien à foutre.
Bah moi de mon côté, je trouve justement que le podcast, parce qu'il est assez accessible et que n'importe qui peut s'y lancer avec son iPhone ou un micro pourri, peu importe, ça permet d'aborder à peu près tous les sujets. Du moment qu'on a envie d'en parler, on se donne les moyens et puis on parle et puis ça fait le taf. Donc s'il n'y a pas encore le sujet qui a été abordé, c'est qu'il le sera. Et puis si vous trouvez que le sujet n'a pas été abordé, bah abordez-le et faites un podcast.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater, et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible.
On vous embrasse tous, merci de nous avoir écoutés, on attend vos retours. On espère que cette émission vous aura plu et on vous donne rendez-vous à la prochaine. Salut mon Rafik.
Salut David.